et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Le Salon du Livre de Genève est à l'honneur cette semaine avec deux grandes personnalités. Nous rendrons aussi hommage à un grand acteur. Voici le sommaire de cette édition. La librairie francophone fidèle au Salon du Livre de Genève, nous serons en public tout à l'heure avec Lydie Salvert, prix Goncourt 2014, coprésidente de ce salon. Elle publie un récit sur l'art, enfermé toute une nuit dans un musée au milieu des œuvres de Giacometti. Elle sera en plateau avec Didier Burkhalter, l'ancien président de la Confédération Suisse, qui publie un roman qui vous fera voyager sur les flots vers le Canada. Dans un instant, nous rendrons hommage au comédien Jean-Pierre Mariel, disparu la semaine dernière, avec un entretien un peu mystérieux que nous avions réalisé avec lui il y a 5 ans, un moment chargé d'intensité et d'émotion. Il sera aussi question de la sexualité de deux célèbres personnages, les Bidochons, vous connaissez ? Son créateur Christian Binet relance ce couple mythique grâce à quelques accessoires érotiques. Bonjour Christian.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bah, ça va.
Vous avez pratiqué les objets sexuels ?
Ah bah, quand vous y allez, écoutez, quand on sera que tous les deux, je vous en ferai part, mais
ouais,
j'aimerais bien
pas
pouvoir
sûr.
Continuer à acheter mon pain dans mon quartier tranquillement, vous voyez.
Parce qu'il y a plein d'histoires étonnantes, vous allez en apprendre énormément sur les sextoys, comme on dit en anglais. Merci d'être avec nous Christian. Et puis nous parlerons des 90 ans de Tintin avec Benoît Peters, invité de la librairie francophone version télé.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et oui, il y a une version télé, vous le savez, on y reviendra dans un instant. Les libraires sont en multiplex avec nous. Tout à l'heure, nous rejoindrons Laura Sanchez de la librairie du Boulevard en Suisse et Jérémy Laniel de la librairie Carcajou à Rosemère au Québec. Ils sont tous les deux ici à Genève et seront sur un plateau spécial avec Lydie Salvert et le président Burkhalter, plateau que nous rejoindrons dans la troisième partie. En duplex, nous sommes avec Déborah Damblon de la librairie La Licorne à Bruxelles. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous ?
Mais avec vous toujours.
Oui. Et on vous retrouvera d'ailleurs bientôt dans le troisième numéro de la librairie francophone version télé sur RTBF La 3, RTS 2, ici RTV et sur TV5 Monde. Première diffusion lundi en Suisse à 22h45 et au Canada à 21h30. Au programme Enki Bilal, Amin Maalouf, le groupe Trio, Éric Plamondon et la revue 6 mois. Vous avez beaucoup aimé ce plateau, je crois, Déborah.
Mais bien sûr, Emmanuel.
En France, c'est Thomas Auxerre de la librairie L'Amandier à Puteaux qui est dans le studio de France Inter aujourd'hui. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous ?
Oh bah écoutez, ça va, en Paris, il fait beau, ça va super.
Ouais, à la
ça
défense.
Va très bien. La défense, exactement.
Merci d'être avec nous tous les quatre. Christian Binet, au moment où nous enregistrons cette séquence, disons la vérité, nous venons d'apprendre la mort d'Anémone.
Ah, sans blague, ouais.
Vous avez...
J'avais fait le film de Corbert avec... où elle faisait jouer Madame Bidochon, mais je l'avais rencontré, j'avais été sur le tournage. Oui, elle cherchait qui pouvait avoir du hashish, mais elle pensait que j'en avais. Mais moi, je fumais la pipe ou le cigare, mais pas ça. Mais alors, on s'est fréquenté un petit peu, oui.
Oui, parce que ce film, il avait été adapté de votre bande dessinée.
Oui,
avez dit d'ailleurs que l'adaptation ne vous avait pas beaucoup plu, mais vous aviez eu un bon contact avec les acteurs, notamment avec Anémone.
Bah, j'avais d'autant un bon contact avec les acteurs que tous les acteurs étaient flatteurs vis-à-vis de moi et de mon travail. Après, bon, le film m'a échappé, comme toujours. Hein. On écrit, on fait quelque chose, puis après l'adaptation, il y a des gens qui prennent ça et puis qui le refont. Mais elle avait fouillé son personnage, elle s'était mis des fausses cuisses, comme qu'on appelle des chevals, des cuisses de cheval, etc. Elle avait travaillé quand même beaucoup.
Culotte de cheval.
Culotte de cheval, elle cherchait. Merci.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit sur les Bidochons, Anémone, Christian Binet ?
Les Bidochons, la BD ou le film ?
Sur la bande dessinée, sur ce que vous faites.
La bande dessinée, elle a été ravie, c'est pour ça qu'elle avait dit oui tout de suite. Après, le film, elle a été plus dubitative.
Ah, aussi,
Bon,
un bon souvenir
mais,
avec
moi, je ne renie pas complètement le film. Mais je trouve que Stevenin et puis elle étaient bien. C'était pas les Bidochons tels que je les ai imaginés créer, mais ils étaient bien tous les deux.
Merci pour cette intervention, Christian. Et Jean-Pierre Marielle est donc mort le 24 avril, à l'âge de 87 ans. On attendit sur lui ces derniers jours. Sa voix reconnaissable entre toutes restera gravée dans nos mémoires de cinéphiles. Généreux, franc, avec une sorte de brutalité affective, il était un cas à part, faisant partie de ces comédiens qui déclament leurs textes, comme au théâtre, partout et en toutes circonstances. Il nous avait reçus chez lui en France, en lisière du Bois de Boulogne, juste à côté des cours de tennis de Roland-Garros. Nous avions rendu hommage à Bernard Giraudot grâce à un livre audio au moment même de la disparition d'un autre grand nom du cinéma, Claude Miller. Il était un peu bourru, un peu triste aussi ce jour-là, mais nous avions passé un long moment avec lui, dans son salon, avec complicité et intensité. Voici un extrait de ce moment inoubliable.
Ah oui, on a tant écrit sur le travail de l'acteur. Il n'y a de méthode que celle d'aller chercher ce que nous sommes profondément, de jouer de bons textes avec un metteur en scène exigeant, et surtout de quelque chose qui ne s'apprend guère, le charisme.
Bonjour Jean-Pierre Marielle.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ben ça va et vous ?
Très bien.
Ben moi aussi ça va.
Alors on est avec vous parce que vous avez réalisé un audiolib, l'adaptation sur CD du livre de Bernard Giraudot, Cher Amour. Vous en lisez de longs extraits avec votre voix charismatique comme on vient de l'entendre. Vous êtes d'accord avec cette phrase sur le métier d'acteur ? Il n'y a pas de méthode que d'aller chercher ce que nous sommes profondément.
Ah ouais, c'est bien. C'est assez juste. Oui, c'est bien ressenti en tout cas. Je comprends bien ce qu'il veut dire.
Il y a aussi cette chose qui ne s'apprend pas, le charisme. Giraudot disait cela aussi. Vous pensez en avoir du charisme, Jean-Pierre Marielle ?
Non, là, ça, je me suis jamais posé la question. Puis, alors, je vais vous dire une chose, je m'en fous complètement. Ou j'en ai pas, ça m'est complètement égal. Le principal, c'est que je fasse des choses qui me plaisent, que je serve des auteurs que j'aime. Ça me suffit dans la vie.
Vous êtes conscient quand même que vous en imposez ?
Non, je suis absolument inconscient de tout.
Vous faites l'inconscient ?
Ah, vous croyez ?
Oui, je crois. Oui.
Ben, vous êtes grand maintenant, vous avez le droit d'avoir une opinion. Quand même.
Ça y est, j'ai le droit.
Ben oui, il me semble.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce texte très personnel de Giraudot qui raconte sa vie comme ça à travers de nombreux voyages ? C'était un grand voyageur.
Oui.
Et ce travail de comédien aussi qu'il décrit, vous vous y retrouvez ?
Et c'est le grand charme qui se dégage de tout ça. Le grand charme, l'émotion. Et puis... une sorte de départ, comme ça. On part en voyage avec lui. Ça, c'est bien, ça. C'était un garçon épatant, Giraudot. Authentique, voilà.
Vous l'aviez rencontré sur le tournage de La Petite Lily, de Claude Miller, qui vient de nous quitter aussi.
Oui.
Qu'est-ce que vous retenez, vous ?
Ils font la paire en ce moment.
Oui.
Bah oui, c'est comme ça. D'ailleurs, moi, vous voyez, quelle heure est-il ? Il est 11h05. J'en ai plus pour longtemps.
Oh non.
Ouais, encore 5 minutes.
Alors. Arrêtez.
Mais non, j'arrête pas. Ça y est, au revoir.
Qu'est-ce que vous retenez de ce tournage avec lui sur La Petite Lily ?
Ah ben... Vous voyez, dans notre métier, il y a des tournages heureux comme ça, des tournages où on fait le boulot, voilà, puis des moments où il se passe autre chose, où il y a des vrais rapports, aussi bien avec le metteur en scène qu'avec les partenaires. Et c'est généralement dans ces cas-là qui fait que on assiste à un spectacle qui n'est pas ordinaire.
Ça va ?
Oui, oui, je me suis dit, je vais me promener. Non, mais ils m'ont laissé avec la chaise longue. Tu me donnes un coup de main ? Je peux même plus porter une chaise longue. Tu le vois, toi ou pas, à quel point je suis devenu une ruine ? Et votre chien, c'est un vrai con. Il fait chier tout le monde, toute la nuit, à aboyer comme un cinglé.
Faut le dire à mon père, hein, c'est lui le gardien, c'est pas moi.
Je hais les bêtes.
Quand on n'aime pas les bêtes, on vient pas se reposer à la campagne.
Mais je me repose pas. C'est un trou ici, on peut pas se reposer dans un trou. C'est sale, ça pue, il se passe rien. On se fait chier quand même, non ?
Vous êtes assez drôle, Jean-Pierre Marielle, quand vous parlez de votre jeu d'acteur, parce qu'à contrario du perfectionnisme, vous refusez souvent l'idée d'effort dans votre travail d'acteur. Vous laissez couler le rôle et vous dites que si on commence à faire des efforts, ça se sent quand on joue.
Oui, évidemment. Mais oui, c'est évident, mais dans tous les domaines. Hein. Un écrivain qui fait des efforts, C'est terrible. On a ça comme ça, ça vient ou ça ne vient pas.
Le spectateur est là pour vivre 2 heures avec nous et partager un autre temps, une autre histoire. Notre premier souci est de faire en sorte que le voile de l'ennui ne descende jamais sur lui et qu'il n'ait à aucun moment les fesses qu'il démange. Le but finalement au théâtre est de respecter les fesses des spectateurs.
Quel rapport vous entretenez-vous avec le spectateur ?
Aucun. J'exerce mon art mineur. S'il est content, il applaudit. S'il est très très mécontent, il siffle. Et puis s'il s'emmerde, il se barre. Voilà.
Et ça ne vous fait rien d'autre ?
Rien d'autre. Non, non. Je rentre chez moi, je rencontre ma femme adorée. Je bois un coup, on dîne. Après, on va se balader dans le bois de Boulogne, qui est en face, là, voilà. Et puis, je tire sur tout ce qui bouge.
Dans le bois de Boulogne ?
Avec mon fusil, oui.
Alors, vous ressentez la vie sur scène, et vous dites d'ailleurs, quand vous êtes dans un théâtre, que vous aimez arriver dans un théâtre, qu'il y a même une odeur qui vous rassure. Le théâtre a une odeur. Vous pouvez nous la décrire, cette odeur ?
Ah, ben... Il y a des théâtres qui ont des odeurs, où il se passe quelque chose comme ça, où tout à coup on se dit, tiens, il est hanté. Par exemple, je suis allé à la Comédie Française dernièrement, et tout à coup on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose, comme s'il y avait... C'était une sorte de... Il y avait des fantômes, comme ça.
Incroyable, Jean-Pierre Mariel, un peu mystique ce jour-là. Le livre audio « Cher amour » de Giraudeau, lu par Jean-Pierre Mariel, est disponible chez Audiolib en version CD et en numérique. Première partie de la chronique des libraires avec un coup de cœur et un coup de gueule. On va commencer par un coup de cœur, tiens, avec Thomas Auxerre qui est en France.
Eh ben oui, absolument Emmanuel, pour une super bande dessinée qui s'appelle Révolution. Alors le tome 1, c'est Liberté, c'est écrit par Groisel et Locard. Alors je sais pas qui dessine et qui scénarise, mais enfin, en tout cas c'est formidable, c'est aux éditions Actes Sud l'an 2. Et en fait, si vous voulez, c'est une bande dessinée qui raconte la Révolution française. Mais alors Emmanuel,
encore
c'est comme si vous y étiez. Ah ouais.
On n'en peut plus de la Révolution.
Ah non, mais là c'est 300 pages, c'est dodu. Il n'y a pas besoin d'être passionné d'histoire, hein. Franchement, au contraire, c'est accessible à tout le monde, même si évidemment par moments, bah, c'est violent, hein, quand même, c'est la Révolution.
Ah bah.
Moi le dessin, j'ai adoré, c'est fouillé. Il y a plein de petits détails, le rendu est très dynamique. Et puis, bah, comme je vous disais, 300 pages, donc quand c'est dodu comme ça et que ça a une bonne main, bah, on reste scotché à son canapé quelques heures. Moi, ça, j'adore, c'est vraiment une super découverte.
Et c'est le tome 1, donc il va y en avoir d'autres.
Et c'est le tome 1, je patiente, ouais, j'attends les autres.
Et c'est de Locard et Groisel aux éditions Actes Sud l'an 2. Merci beaucoup, Thomas. Déborah Damblon, en Belgique, un coup de gueule.
Eh ouais, Emmanuel. Ouais, ouais. Parce Allez. Que, avec le mois de mai, vous savez ce qui se profile sur nos tables ?
Non.
Ben, la fête des mères,
ah, bah oui.
Hein, pardi.
Mais oui.
Et puis avec la fête des mères.
Et la fête des pères, cortège... après.
Oui, oui, mais ça, c'est au mois de juin. Vous êtes épargnés, les pères. Les pères sont épargnés, Emmanuel. Parce que les mères, il y a un cortège de bouquins, de cuisine, de développement personnel, de bien-être, et même pire, les romans à l'eau de rose. Si, je vous assure, il y a encore des éditeurs qui en sont là. Alors, pour rappel, la plupart d'entre nous avons un cerveau. Alors, un livre, c'est une bonne idée, mais s'il vous plaît, choisissez le bien.
Offrez une bonne machine à laver, un livre de cuisine à votre maman et tout ira bien. C'est ça, la morale de l'histoire. Bon, bonne fête à toutes les mamans, en tout cas, un peu anticipé. Merci beaucoup, Déborah, pour ce coup de gueule. Vous avez raison, on vous accompagne dans ce coup de gueule. On va écouter un titre qui aurait plu à Jean-Pierre Mariel. Tiens, voici le nouveau M dans la librairie francophone. Et juste après, on parle de la sexualité des bidochons. Ne faites pas la grimace, je vous vois. Et aussi des 90 ans de Tintin.
Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand petit con.
Je vous passe devant, j'étais là avant vous. Vous ne m'aviez pas vu. Je n'ai pas une minute à moi ni à personne. je suis mon propre but. Au grand petit con.
Quand je vois dans tes yeux, mon enfant, que je deviens con. Transformée en passion, qui n'oublie pas la voix lumineuse des anges, celle qui te dit tout bas. Prends l'amour sans échange, donne-le sans recevoir. Aime du matin au soir, et surtout n'oublie pas. Quand petit con c'est toi, quand petit con c'est moi. Quand petit con c'est toi, quand petit con c'est moi.
M avec grand petit con sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Canada,
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Et bonjour Christian Binet.
Et bonjour, merci de m'avoir juste placé après la chanson qui vient de
passer. Ça colle bien, hein, ah vous ne trouvez pas? Entre Marielle et vous, on ne peut pas choisir autre chose. Les Bidochons relancent leur couple, c'est le tome 22 qui vient de paraître chez Dargaud. On est fan des Bidochons ici, vous le savez Christian, mais parler de la sexualité de Robert et Raymonde, c'est un peu, comment dire, dérangeant, pas très appétissant.
Ben non, mais justement, je voulais éviter ça. C'est pour ça que je cherchais le sujet, parce que c'est vrai, la sexualité des Bidochons, c'est un thème que j'avais pas vraiment beaucoup abordé.
Ouais.
Et il s'est trouvé qu'une amie de mon épouse a participé à une soirée sex toys, et quand elle m'a raconté ça, j'ai dit, mais c'est tout à fait ça, parce que c'est de la vente à domicile. Donc ouais, c'est les mêmes qui achetaient à une époque des ustensiles de cuisine en plastique.
Ouais.
Donc ils se sont reconvertis, maintenant, ils achètent du sex toys. Mais ils parlent comme il parlait des avant, c'est-à-dire qu'il parle de la qualité, de la texture, etc. Et en même temps aussi de leurs problèmes personnels ou de leur sexualité, mais avec beaucoup de liberté, de légèreté. Ne serait-ce que parce que déjà on les accueille avec un verre de sangria, donc ça désinhibe. Ça désinhibe, voilà. Et puis surtout quand elle m'a dit, en fait, les cosmétiques, style cosmétiques pour exacerber les sensations clitoridiennes,
oui. Et dire
on passe l'une après l'autre à la salle de bain pour les essayer, et puis ensuite on revient finir le verre de sangria, parce que c'est la vente à domicile, c'est pas une orgie. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, Bidochon un peu tout à fait dans ce genre de truc.
Ah ben, Raymonde, ouais. Bidochon va effectivement participer à ces soirées. soirée coquine. Robert est complètement à côté de la plaque. Il ne comprend rien aux jouets sexuels. Vous êtes informé vous-même, Christian Binet, un cock ring, j'ai noté ça, au des nipple covers, hein, puisque tout est en anglais. Vous saviez déjà ce que c'était, vous pratiquiez peut-être?
C'est gentil.
Mais quoi?
Vous essayez de me mettre mal à l'aise, mais vous n'allez pas y arriver.
Ah, mais pas du tout. Moi, je pose des questions, c'est tout.
Abandonnez ça.
Je suis dans le sujet, Christian.
Mais les sextoys, vous les trouvez en grande surface. Oui. Vous trouvez des vibromasseurs en grande surface. Vous allez sur un site de vente par correspondance bien connu. Vous avez tout, même les menottes, les fouets, tout ce qu'il vous faut. Voilà. Donc voilà,
ça vous a tenté, vous, un moment, ou vous êtes défoulé dans la BD?
Moi, je trouve que plus c'est naturel, plus ça me plaît.
Bon, en tout cas, il y a Raymond qui dit à Robert, qui ne comprend absolument rien, c'est pas la peine de vieillir si c'est pour devenir vieux.
Ouais, mais ils ont des formules comme ça, on comprend bien ce que ça veut dire. C'est un peu maladroit. C'est comme Monsieur Bidochon qui disait, les vacances, il faut se forcer, sinon c'est pas la peine. Je me rappelle...
Vous êtes le roi pour ce genre de petites phrases.
Bah oui, mais non, mais j'ai pris ça de grands comme Fedo, par exemple. Je me souviens ce type qui se plante devant la fenêtre et qui dit c'est pas pour me vanter mais je pense qu'il va pleuvoir. ces choses-là, on comprend ce qu'il va dire, mais en même temps c'est une maladresse dans le propos qui fait que ça crée du comique.
Oui, c'est comique. Alors il découvre cet anneau pour...
Oui, le cock ring.
Le cock ring, ouais. Voilà. Alors il dit mais ça sert à quoi? Alors Raymond dit Pamela dit que c'est pour mettre à la base de ton pénis. Bon et alors? Ça ne me dit pas à quoi ça sert.
Eh oui. Non mais je veux dire, en plus vous dites ça, mais il n'y a pas que Monsieur Bidochon, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un cock ring.
Mais je suis allé chercher, pour être honnête.
Ah oui, c'est ça, mais moi aussi je suis allé chercher, quand on ne sait pas faire des allusions hasardeuses, non, j'étais cherché.
Bon, Raymond va lui faire une surprise avec une tenue de nuit censée être coquine. En lapin, faut la voir parce que c'est magnifiquement dessiné, on va dire. Et puis il y a cette histoire de canard. Lors de la soirée lingerie et sextoy, la copine de Raymond lui conseille de prendre un canard qui a la queue qui vibre. Et elle lui dit, prends le canard, ça passera pour de la déco.
Voilà. Mais ça, c'est archi connu, hein. Ça, c'est un vieux truc, ça, le canard vibrant.
Oui, c'est le bec qui vibre, hein. J'ai dit la queue.
Oui, c'est le bec.
En même temps, la bec.
Ah, vous êtes vraiment en novice, hein.
En canard qui vibre, ouais. Je vous avoue que oui. Alors, Robert dira, c'est quoi ce canard dans la salle de bain? Tu joues encore dans ton bain, toi? En fait, il est un peu, comme tout le monde, beaucoup de monde, en tout cas, il a un peu de mal à comprendre l'intérêt de ses jouets sexuels. C'est ça, les bidochons aussi. C'est un peu chacun d'entre nous.
C'est un peu ça, mais Monsieur Bidochon, il faut pas trop le perturber dans ses habitudes, etc. Mais moi, je sais que mon fils, pour rigoler, il a offert un canard vibrant à ma belle-fille.
Ah oui.
Donc c'est la salle de bain, les gosses jouent avec. Hein. Mais ils trouvent que ça nage pas assez bien, ça.
Non mais Christian, c'est pas possible.
Mais si, attendez, ils ont tous accès à Internet avec leur portable, je vous assure qu'ils en voient les pires. Moi, je fais de l'humour.
Oui.
Le fils allemand, ça, il y a des tas de choses qui passent qui les choquent pas.
Hein. Oui, et puis ça reste un canard.
Ouais. Bah oui, là, c'est un canard.
Un canard qui bouge, quoi.
Oui, voilà.
Il y a un grand succès de ces magasins qui vendent ces sortes d'objets et en même temps beaucoup d'incompréhension, de perplexité autour. Vous le décrivez très bien dans cette bande dessinée parce que c'est vrai qu'on se pose des questions sur l'utilité, sur le fonctionnement même, parce que parfois c'est compliqué. Vous avez fait des recherches, comment ça s'est passé?
Oui, de toute façon, l'avantage d'Internet, c'est que vous trouvez tout, compris des témoignages, etc. Moi, je trouve en plus ces trucs complètement aberrants parce que, vous savez, le vibrant pour mettre dans le vagin d'une femme, la technique aidant, en fait, maintenant, on peut télécommander les vibrations depuis son portable et même du portable de son partenaire.
Ah oui.
Et c'est très puissant parce que, en fait, vous pouvez appeler depuis l'Australie. mais je trouve ça couillon. Enfin, je dis que qui aurait l'idée de mettre en marche le vibrant de sa femme qui est à 5000 km?
Bah si, justement, c'est l'intérêt.
Ah oui.
Vous êtes novice un peu, hein, Christian.
Bah, allez,
on va aller voir du côté des libraires qui ont lu cette BD, Christian Binet, La France et la Belgique, Cap sur la France, Thomas Hausser.
Ah oui, alors moi Emmanuel, je ne suis pas un grand connaisseur des bidochons, mais alors là quand j'ai vu le titre, je me suis frotté les mains, je me suis dit, alors là, chouette, je vais passer un bon moment.
Si vous êtes frotté les mains, tout va bien.
Alors oui, et du coup, ça a été le cas, j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai plongé dedans, c'est vraiment drôle, c'est très drôle, c'est malicieux, le rythme est efficace, et puis en plus ça fait que qu'on lit votre bande dessinée vraiment d'un coup, la librairie, je sais que ça va faire des heureux, parce que les nouveautés de Binet sont toujours attendues, et puis là c'est vraiment un bon cru, donc ouais, vraiment super.
Parfait, merci pour cette intervention. Déborah Damblon est en Belgique, êtes-vous d'accord?
Eh ben moi, je suis une grande spécialiste de Bidochon, Emmanuel. Je les adore, mais tellement, tellement que j'ai du mal à imaginer que j'ai pu lire sans eux. Parce qu'ils sont merveilleux, ils sont drôles, et puis c'est un tellement bon défouloir de pouvoir se moquer d'eux. Mais finalement, pour être honnête, les Bidochon, ben, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on leur ressemble un petit peu. Alors dans celui-ci, ben, j'ai ri, évidemment, comme toujours, parce que on rit toujours avec les Bidochon, mais au-delà du rire, eh ben, je les ai trouvés touchants. Et puis, je me suis dit qu'il fallait quand même que je les garde fichtrement à l'œil pour être sûr de pas trop leur ressembler, quoi.
Vous leur ressemblez au Bidochon, Christian Binet. Vous le dites, ça. Vous avez un côté Bidochon.
Attendez, ce que je dis, c'est que je ne ressemble pas au Bidochon. Je continue. Je suis pas Bidochon.
Non.
Mais
on a pas dit ça.
Il y a des situations dans lesquelles, effectivement, mais les gens le reconnaissent. C'est ce qui est bien. Ce qui prouve aussi que finalement, il n'y a pas de repoussoir. La dame que je viens d'entendre, elle disait que finalement, ils sont touchants et sympathiques. Et si quelque chose a du succès, souvent c'est grâce à ça. Ouais. Si vous faites des personnages antipathiques, les gens tournent la tête, vont ailleurs.
Bon, vous passez beaucoup de temps à écrire les textes. C'est vrai que c'est ça, hein, les Bidochon, ce sont des textes hilarants. À chaque fois, on tombe comme ça, par mégarde souvent. On est surpris en fait par des phrases qui nous font éclater de rire instantanément. Et vous êtes à la recherche du dialogue percutant, du bon mot. Et vous dites même, je pense qu'il vaut mieux tenir un bon scénario et le mettre en image avec un trait médiocre que l'inverse.
Tout à fait. Ah, ouais. Mais moi, j'ai appris mon métier, moi pas avec des gens qui dessinaient, mais avec des gens qui écrivaient des textes, puis Molière, Feydeau, La Biche, plus Lubitsch, Capra, René Clair, etc. Tous ces gens-là, qui en plus ont une technique, connaissent bien la mécanique du gag. Et donc j'ai appris avec eux, moi.
Bon, cette année, vous le savez, Christian Binet, nous célébrons les 90 ans de Tintin. Benoît Peters, grand spécialiste d'Hergé et de ses personnages d'ailleurs, est venu nous en parler dans la version télé de la librairie francophone le mois dernier. Voici cette séquence adaptée pour la radio avec la participation d'une libraire de Madagascar et une jeune lectrice de 17 ans. Et ensuite, Christian, vous réagirez à cet anniversaire qui excite les tintinophiles. Ans, imaginez. Il fait jeune, hein, pourtant. Il ne les fait pas. Tintin célèbre donc ses 90 ans. Il est né en 1929, l'année des grands reporters qui sillonnent le monde comme ça, avec le transsibérien ou encore en bateau, avec un sac à dos, une valise à la main. C'est ça qui fait rêver. Oh, c'est le voyage.
Hergé, lui, il rêvait de voyager. Bah, mais vous savez, il travaillait dans un bureau, dans le journal Le 20e siècle, et il ne voyageait pas. Il n'est allé ni en Russie soviétique, ni en Amérique, ni en Chine. Et pourtant, il a fait voyager des millions de lecteurs depuis des générations. Aujourd'hui, Tintin est partout en Chine. C'est le pays où il se vend, ses albums se vendent le plus. Et beaucoup de jeunes lecteurs chinois sont persuadés que Tintin est chinois. Donc, vous voyez, itinéraire extraordinaire de ce petit Belge qui ne voyageait pas et qui a fait rêver à ce point-là.
Et Tintin est à Madagascar, Voirana. Il y a même de l'artisanat réalisé autour de la figure de Tintin.
Alors, effectivement, Tintin est bien présent à Madagascar, aussi bien dans les librairies que sur les étagères du marché artisanal.
Et Tintin à Madagascar,
oui,
qui n'existe pas.
Et le touriste repart avec des boîtes à secrets avec Tintin à Madagascar ou des tableaux.
Mathilda, tu nous as dit juste avant l'émission que Tintin, c'était toute ton enfance. Alors, tu as 17 ans, ça va, l'enfance n'est pas loin. Mais qu'est-ce que ça a été, Tintin, dans ta vie, toi?
Bah, déjà, ça a été une figure importante, parce que du coup, j'ai une bibliothèque juste en bas de chez moi. Qui s'appelle la bibliothèque Hergé.
Ah bah oui, d'accord.
Et justement, c'est là où j'étais tout le temps fourrée, du coup, et je me souviens qu'il y avait effectivement toutes ces figurines de Tintin, on avait les albums à la maison, c'était une figure assez importante, on en parlait beaucoup, avec mes parents, mes grands-parents, on a vu tous les films aussi.
Et c'est un tour du monde, hein, c'est vrai, c'est ça, Benoît Peters,
ce Tintin. C'est transgénérationnel, vraiment. Il a 90 ans, mais finalement, vous avez des gens très âgés qui le lisent. Autrefois, on disait de 7 à 77 ans, mais finalement, on peut commencer plus tôt sans savoir lire et aller bien au-delà de 77 ans, c'est extraordinaire. Il n'y a pas tellement d'œuvres, par exemple, dont on peut citer tout d'un coup une phrase, « Mille millions de mille sabords » ou « C'est plus fort que Midable », comme dirait l'oncle Anatole de Séraphin l'Empire, et tout de suite, un sourire vient sur un visage, ça nous rappelle quelque chose. On se souvient des bêtises des Dupont, on se souvient des distractions de Tournesol, de son génie quand il emmène les personnages sur la Lune. Vous savez quelle année il a amené les personnages sur la Lune? En 1953, 16 ans avant Armstrong.
Avant, juste avant. 16 ans avant Armstrong. Juste avant, bien avant.
Voilà, donc Il y a là quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a cette diversité de l'œuvre, sa drôlerie, sa profondeur qui fait qu'elle est toujours là, tant d'années après le dernier album dessiné par Hergé.
J'ai vu passer sur les écrans le Lotus Bleu. Il y a toute une histoire avec le Lotus Bleu parce que certains ont dit qu'il a fallu attendre le Lotus Bleu pour avoir un album fouillé sur le plan graphique et sur le plan de la psychologie des personnages. C'est l'album charnière.
C'est le tournant. Hergé avait commencé très tôt, très jeune, sans formation, sans école de dessin, sans habitude de narration. Et il a fait une rencontre, celle d'un jeune étudiant chinois, un étudiant aux Beaux-Arts à Bruxelles, Chang Chongzhen. Et cet étudiant lui a apporté des petits manuels de peinture chinoise, des pinceaux. Il lui a raconté son pays, lui a raconté la responsabilité que c'était de dépeindre un pays pour les lecteurs, de donner une image. Et c'est le moment où Hergé bascule des stéréotypes genre Tintin au Congo. Donc il faut bien dire que c'est pas l'album le plus bon.
On en a beaucoup parlé, hein, mais c'est vrai qu'il y a des histoires politiques autour de Tintin.
Et dans le Lotus Bleu, Hergé s'engage par amitié, au fond, pour défendre cette Chine agressée par le militarisme japonais.
Alors il dira, Hergé, quand il verra le Lotus Bleu, écoutez bien ça, il le voit imprimé et il dit... C'est trop beau pour les gosses.
Alors, c'est trop beau pour les gosses. C'est une phrase, effectivement, qu'on pourrait mal interpréter. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué dans les albums pour enfants à être allé aussi loin, à avoir mis de l'art. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'Emmanuel Kérat pour inviter Hergé, pour lui dire « Monsieur Hergé, c'est un tournant dans votre œuvre. » Il avait fait ça pour lui, par amitié, par exigence. Et personne autour de lui lui a dit « Il y a quelque chose de neuf ». Et là, il l'avait réussi, il l'a fait. Et aujourd'hui encore, on peut lire le Lotus Bleu. Alors que la réalité historique a totalement changé. Et l'album est toujours là, comme une ouverture sur le monde et sur l'autre.
Plus de 200 livres ont été publiés sur Hergé et ses personnages. Merci Benoît Peters. À bientôt.
Merci
Vahirana. À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Bon retour à Madagascar.
Et la version télé de la librairie francophone avec les 90 ans de Tintin, c'est à voir ou à revoir sur Internet et Dailymotion. Christian Binet, que représente Tintin pour vous ?
Tintin, j'ai reparlé comme un grand-père en disant c'est mon enfance et tout, mais c'est vrai que ça résiste bien au temps et sans doute effectivement un des premiers à avoir fait des histoires aussi complètes comme ça et avec dans des milieux complètement différents. En plus j'ai remarqué il y a un truc qui me rend plu, c'est que il a écrit sur la Russie par exemple sans y avoir jamais été. Donc je me dis que je pouvais très bien écrire sur les sextoys sans jamais les utiliser. Quand même.
Vous revenez au sujet, vous êtes malin, vous êtes très malin. Merci beaucoup Christian Binet. Les Bidochons relancent leur couple. Le tome 22 est paru chez Dargo. Vous n'êtes plus chez Fluide Glacial ?
Non, j'ai quitté parce qu'en fait, Fluide avant c'est devenu Gallimard. C'est une énorme boîte où je connaissais plus personne.
D'accord, donc Dargo.
Voilà.
Très bien, c'est expliqué. Merci Christian, à très bientôt. Vous êtes ici chez vous, vous le savez, vous reviendrez
merci
quand vous aurez un nouvel album. Merci à vous. On va sur notre plateau installé par la RTS sur le Salon du Livre de Genève dans un instant avec Lydie Salvert et le président Burkhalter. Voici à présent un petit cadeau musical avec la chanteuse Jazia Satour dans la librairie francophone.
لمال ما نبكي سالف مكان لأنو حلا ديار أوطان ما نقول ويني على زمان لا حصرة اللي كان حياة في الروح في سالف المكان لأنو حلا ديار أوطان جاني حال ليه واجدا بين الحين والحين صادا حياة في الروح في الروح في الروح
شطر حالي ليلة فيها مسيرة طويلة كل عرش الرحال عشاق وملال نسرح الحبان تقولي لا راسي على عيني زين الكلام عندي ملا وهام من هنا القدام وندي بزاد اللي حلالي قطرة ما سلسال حب تظهر نجوم اللي مالها زوم فتيلة تضوي في ليلة شيلة ما تطفى ما تخفى دايما
C'était la chanteuse algérienne Jazia Satour avec M. Sira.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et la chronique des libraires, ici donc au Salon du Livre de Genève, où nous avons rejoint la scène nommée Apostrophe avec Laura Sanchez et Jérémy Laniel. Bonjour Laura.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'avoir rejoint avec nous ce plateau installé par la RTS. Vous êtes libraire dans la librairie du Boulevard, ici à Genève. Vous êtes venue en voisine, donc. Un petit coup de gueule pour commencer, Laura.
Allez, un petit gentil coup de gueule. Oui, j'aimerais vous parler du nouveau livre de Duna Lou qui s'appelle Déployé et qui est sorti aux éditions Zoé. D'abord, il me faut vous décrire l'objet. Il se compose de 7 livrets réunis dans une pochette. Alors, c'est l'idée qu'il y a une myriade de manières de lire cette histoire. Bonne idée en soi, mais même si j'aime beaucoup l'écriture de Duna Lou qui est intuitive et sensuelle. Mmh. J'aime aussi beaucoup sa thématique, une histoire d'amour un peu chahutée. Je pense que ce concept n'apporte rien à son texte.
D'accord. Bon, écoutez, oui, effectivement, il y a des fascicules, c'est ça, des petits livrets.
Ouais, c'est ça.
Elle avait publié chez Mercure de France, je crois.
Oui,
avant,
oui, jusque-là, hein, elle était chez Mercure, ouais.
Bon, c'est chez Zoé et ça s'appelle Déployé. Ça peut quand même attirer un certain public.
Mais
moi,
c'est
je
un
suis
beau
sûr.
Texte. Oui,
ouais, ça peut le faire. Merci beaucoup, Laura. Bonjour, Jérémy Laniel.
Bonjour, Emmanuel Kérad.
Vous avez fait le déplacement depuis Montréal pour participer à la présence du Québec sur cet événement. Que pensez-vous de ce salon, tiens, d'ailleurs?
Vous savez, c'est la troisième fois que je viens. On entend beaucoup cette édition que le salon rapetisse, rétrécit, oui. Mais c'est bien parce que le Centre du Québec, lui, grossit. Étant donné qu'on ne change pas en proportion, on prend de la place, semble-t-il.
Un gros coup de cœur en ce qui vous concerne cette semaine.
Absolument. C'est un coup de cœur en poésie, mais c'est un livre qui n'a pas vraiment de label. C'est Catherine Lalonde, La dévoration des fées. C'est un livre qui est un cauchemar pour les libraires. On ne sait pas où le placer. Est-ce un conte cruel, un roman, est-ce de la poésie? C'est un livre qu'il y a quelques décennies, voire quelques siècles, on l'aurait mis à l'index. Maintenant, je vous le pointe du doigt pour que vous le découvriez. C'est un livre qui est tantôt poétique, tantôt en prose. C'est violent, fabuleux.
La poésie, encore une fois, hein, notre spécialiste amoureux de la poésie, Jérémy Laniel.
Est-ce que ça vous étonne, Emmanuel?
Mais non, mais c'est génial. Voilà. Vous êtes là pour ça. Catherine Lalonde, La dévoration des fées, aux éditions Le Cartanier. Merci à vous.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS, la première.
Ici, Radio-Canada, première.
RTBF, la première.
France Inter.
Et bonjour Lydie Salvert.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Madame la Présidente,
oui.
Car vous co-présidez ce Salon du Livre de Genève cette année et vous publiez Marcher jusqu'au soir aux éditions Stock dans la collection Ma nuit au musée. Rien à voir avec Pas pleurer, votre roman pris Goncourt en 2014. Vous êtes installé une nuit dans le musée Picasso à Paris et vous racontez tout.
Et je raconte surtout que devant cette chose qui devait m'émerveiller, devant laquelle je devais ressentir une émotion extraordinaire, etc., je n'éprouve rien qu'un oui. vague malaise, qu'une appréhension confuse. Et je vais m'interroger sur toutes les raisons qui font que je suis dans cette insensibilité affreuse. Et je me dis, est-ce que c'est parce que les conditions ne sont pas réunies pour se recueillir, pour aller à la rencontre d'une œuvre? Est-ce que c'est parce que j'ai des pensées mauvaises contre l'art dit contemporain qui m'agace et je pourrais en parler? est-ce que c'est parce que j'ai adoré autrefois L'homme qui marche parce qu'on m'avait dit qu'il fallait l'adorer.
Notre Giacometti, etc., oui. Etc. Bon. Alors c'est vrai qu'on s'attend à de la contemplation, à de l'admiration même pour les œuvres qui vous entourent, mais pas du tout. Vous écrivez même « Regarder ces œuvres m'est une corvée et je me fais violence en continuant cette expérience à la con.
» Mais c'est une colère qui est joueuse, mais qui cache une invitation à la liberté. Autorisez-vous à aimer ce que votre expérience vous dit d'aimer plutôt que de vous soumettre au dictat de la critique, des gens qui détiennent le bon goût, etc. Sentez-vous libre d'aimer ou de désaimer. Prenez ce qui résonne en vous plutôt que ce qui est vendu par la publicité culturelle, comme disait Dubuffet, etc. Vous voyez, la colère cache ça, une invitation à s'autoriser de soi plutôt que s'autoriser des autres et à abandonner la posture, l'hypocrisie, la culture pour faire étalage, la culture pour paraître intelligent, etc. C'est rien d'autre.
Les musées, c'est un peu ça pour vous. C'est ce que vous écrivez. Vous dites, les musées nous donnent l'impression qu'ils sont des espaces ouverts à tous et qu'il suffit d'acheter un ticket d'entrée pour s'ajuster à la joie infinie qu'ils dispensent. Mais c'est pour mieux nous faire oublier que nous vivons dans une société scindée qui hiérarchise les âmes et que si l'art est mis à la disposition des foules, il reste en vérité le privilège de quelques parvenus. C'est violent, hein ?
Mais c'est vrai que notamment l'art dit contemporain est défendu par une dizaine de financiers, une dizaine de galeristes et une dizaine d'artistes internationaux qui se cultivent l'entre-soi, qui se trouvent très intelligents et très, très cultivés, qui prennent les musées souvent comme des annexes de leur entreprise financière.
Alors qu'il faut s'attacher aux œuvres, notamment Giacometti, qui a matérialisé avec ses œuvres l'art d'échouer. Vous parlez de l'art d'échouer. Faut-il rater pour réussir, Lydie Salver ?
Bien, c'est ce que dit en quelque sorte l'œuvre de Giacometti qui faisait, défaisait, détruisait, construisait sans cesse avec le sentiment qu'il n'y arriverait jamais. Et c'est cet élan vers l'inatteignable qui lui donnait son énergie et qui donnait aussi une forme à ce qu'il faisait.
Alors, il y a des libraires autour de vous qui ont lu votre récit, Lydie Salver, avec le public qui nous a rejoint, qui est très nombreux d'ailleurs. On va les entendre parce que j'aime bien, moi, entendre le public de Genève. Ben voilà. Voilà. Avec Jérémy Laniel, que vous connaissez tous, qui est notre libraire au Canada et qui a adoré, je crois, le livre de Lydie Salver.
Quelle claque au visage, Emmanuel, que ce livre. La colère a cela de bon qu'elle est rarement feinte et Salver vraiment donne à lire une charge en règle qui, malgré sa virulence, j'ai l'impression qu'elle sonne comme une lettre d'amour à certains moments. Les institutions, les jeux politiques inhérents à la représentation de l'artiste en prennent un coup, mais c'est simplement pour jeter une plus grande lumière, j'ai l'impression, sur la nécessité de l'art. Un brûlot comme une ode à la beauté, j'aurais envie de dire.
Carrément, dis donc. Laura Sanchez, êtes-vous d'accord? Séduite ou pas?
Oui, quel ovni que ce livre. Vous nous faites voyager dans tous ces différents niveaux que vous avez vous-même traversés au cours de cette drôle de nuit au musée Picasso. C'est toujours un immense plaisir d'en apprendre plus et d'entendre parler de l'immense Giacometti, qui est une figure incontournable du paysage culturel suisse aussi. Mais j'avoue que moi, j'ai encore plus aimé les passages qui vous sont plus personnels. Vos déambulations dans vos souvenirs d'enfance, votre peur, vos coups de gueule, ça, c'était vraiment délicieux.
Et le lit de camp aussi.
Hein. Oui, j'ai été traumatisée par le lit de camp.
Vous avez dormi sur un lit de camp dans ce musée. En même temps, c'est ça, c'est rudimentaire pour pouvoir apprécier les œuvres, je suppose.
Normalement, c'était prévu pour ça.
Et ça n'a pas marché du tout.
Pas vraiment.
Alors, c'est vrai que dans cette nuit au musée, vos pensées vont dans tous les sens, Lydie. Vous ressentez tour à tour de la colère, de la tristesse, de la mélancolie, et on a envie de crier à ceux qui vous ont enfermé, sortez-la de là. Vous n'avez pas eu envie de partir de vous-même à un moment ?
Mais tout le temps. Mais en même temps, je me disais que c'était une marche vers moi-même aussi, pour faire un peu littéraire comme ça, mais une marche vers les souvenirs d'enfance, justement, et comment s'est constitué mon rapport à la culture. L'intimidation qu'avait sur moi l'art, dont je me sentais distante, exclue, intimidée horriblement, etc.
Avec votre maman qui n'a jamais été dans un musée, vous le dites.
Elle n'a jamais
été. Elle n'est même pas rentrée dans une librairie.
Non. Bien sûr, elle avait l'impression que ça ne la concernait pas, que ça n'était pas pour elle, que c'était pour d'autres.
Vous racontez aussi une partie de la vie de Giacometti, qui rencontre Annette ici à Genève, à la Brasserie Centrale. Vous décrivez un homme qui place la loyauté au-dessus de tout et qui dénonce, comme vous aussi, Lydie Salver, qu'on institutionnalise
Oui, alors un musée c'est précieux parce que ça concerne des œuvres qui, sans les musées, iraient à la déperdition, à la vente, à la disparition. Mais il conserve, et ce mot veut bien dire ce qu'il dit, c'est-à-dire on conserve ce qui est mort, on conserve ce qui a passé sa vie.
Bon, merci beaucoup Lydie Salvert. Vous allez rester avec nous, Marcher jusqu'au soir est paru chez Stock. Vous pouvez applaudir Lydie Salvert, ici au Salon du Livre de Genève. Je vous présente Didier Burkhalter, Lydie Salvert, ancien président de la Confédération Suisse. Bonjour Monsieur le Président.
Ah, il faut pas dire ça, on est en Suisse. Hein,
ah ben, je sais pas. En France, on garde son titre. Il faut...
Oui, mais en Suisse, on
au Canada aussi.
D'une certaine modestie, ce qui ne veut pas dire que les autres ne le sont pas.
Bon, merci d'être sur ce plateau de la librairie francophone ici au Salon du Livre de Genève.
Avec plaisir.
Vous publiez une fresque familiale dont le premier volet, Mère porteuse, et le second, Terminé, sont parus aux éditions de l'Air. Vous évoquez ces traversées transatlantiques à la toute fin du 19e siècle qui ont fait migrer comme cela ces Européens vers le Canada, via Boston, notamment aux États-Unis.
Oui, en fait, ce que j'aimerais, c'est passer en revue tout le XXe siècle. Et en effet, le premier livre commence à la fin du XIXe, les prémices, les fantasmes, quand on imagine qu'on va faire une traversée, précisément,
oui,
la traversée vers un nouveau siècle. Mais j'aimerais après passer tout le XXe siècle, parce que je trouve que le XXe siècle nous parle à nous tous. C'est notre siècle du passé. Et c'est ce siècle qui nous dit des tas de choses qu'on a de la peine à écouter. Et on est en train de répéter les erreurs. Et les erreurs du XXe siècle avec les moyens de destruction du XXIe, c'est dramatique.
Alors à l'époque, on abandonne souvent les enfants. Il y a des hommes et des femmes déracinés qui vont tenter, comme vos personnages d'ailleurs, de connaître leur passé en naviguant comme ça entre les deux continents.
Oui, ce que j'essaie de dire aussi, c'est qu'il ne faut pas juger trop vite les gens et pas partir du principe que personne ne peut changer au cours de sa vie. Par exemple, le fait de devoir affronter la guerre ou les crises, les pires, peut changer quelqu'un ou peut l'amener à être encore meilleur, peut l'amener aussi à devenir terroriste. Il ne naît pas terroriste, le terroriste, il le devient. Mais il peut aussi devenir quelqu'un comme Enor dans les deux livres, qui décide après la Première Guerre mondiale d'être de plus en plus juste ou d'essayer de lancer des organisations ou des services même d'avocats
humanistes
pour tout le monde.
Ouais.
Pas seulement pour ceux qui ont le plus de chances de les avoir.
Le jeune Enor, qui est fils de deux Bretons exilés, vous racontez la vie de ses parents avant, qui va ouvrir comme ça un cabinet d'avocats à Montréal. Et sur la porte de son cabinet, il est inscrit « des idées et du cœur ».
Oui, parce qu'on ne fait pas les unes sans l'autre. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer d'avoir que des idées, mais de ne pas leur donner le carburant du cœur pour qu'elles avancent. Vous ne faites jamais rien véritablement de durable sans y mettre du cœur.
Mmh. Enor va changer la façon de défendre les citoyens, Didier Burkhalter. Il va instaurer une méthode humaniste comme ça. Il ira jusqu'à créer une fondation. Il incitera d'ailleurs à ce qu'on adopte des enfants. Ça va très loin, son histoire. Elle est réelle ou pas? Vous avez entendu parler de cette initiative un jour?
Non, ça ce sont des... Si vous voulez, c'est la façon de colorier l'idéal. C'est les choses qu'on peut faire un peu en politique.
Ouais.
Et on est toujours un peu limité. Et évidemment qu'on ne peut pas tout réaliser ce qu'on aimerait, c'est normal et il faut l'accepter. Mais avec l'écriture, on peut marquer encore plus, on peut donner précisément des vagues qui vont jusqu'à la côte, jusque de l'autre côté. Et c'est ça un peu l'idée. Et bien sûr qu'elle a un petit brin de naïveté, mais sans cette naïveté, vous faites jamais rien de véritablement exceptionnel. Il faut toujours avoir l'impression qu'on peut réussir, même quand c'est le pire. Ça, je l'ai appris en diplomatie. Parce que les moments où on a réussi quelque chose de vraiment positif, c'était le moment où on était au plus bas. Et c'est là qu'on rebondit.
On va voir du côté de nos libraires, Didier Burkhalter, vous êtes d'accord? La Suisse ou le Canada, on commence par qui?
Comme vous voulez, mais je dirais plutôt les autres d'abord, et finir par la Suisse.
C'est le plus dur, le libraire canadien, il est dur, dur.
Il est dur,
oui.
C'est un dur.
Allons-y, Jérémy Laniel, vous m'inquiétez rien qu'au regard.
Mais c'est un livre très ambitieux, comme on vient de le voir. Et moi, c'est vraiment au niveau du style que j'ai un peu de difficulté. Il y a dans l'écriture de ce livre une volonté vraiment de ratisser large, d'englober tout. Un style qui jamais ne désire laisser aucune image en suspens, mais qui embrasse trop mal étreint. J'ai l'impression que Mère porteuse est victime un peu de surenchère d'adjectifs, d'adverbes, de métaphores. L'écriture est un petit peu touffue. Il y a quelques lieux communs à Montréal, mais on les pardonne, on commence à en être habitué. Mais j'ai vraiment sorti de ce livre plutôt essoufflé plutôt qu'être soufflé vraiment.
Bien. Laura Sanchez pour la Suisse, vous n'êtes pas du tout d'accord avec votre collègue.
Bah non, alors moi d'abord je voulais vous dire que je vous ai apprécié en homme politique et je suis agréablement surprise de vous découvrir en jeune écrivain. On sent que vous prenez un immense plaisir à choisir chaque mot. Ça rejoint Jérémy, mais pour moi c'est positif. On sent que vous aimez vos personnages. Je suis un petit peu moins convaincue par les histoires d'amour et les rencontres amoureuses. Je trouve qu'elles sont un tout petit peu trop faciles. Mais sinon, vraiment, j'ai beaucoup aimé votre livre. Je vous félicite.
Il n'y a rien de facile dans l'amour. Il y a de l'immédiateté. Il y a des coups de foudre. Il n'y a rien de plus beau qu'un coup de foudre.
Les coups de foudre et ses enfants abandonnés, Didier Burkhalter, que l'on va enfin autoriser à adopter. Vous racontez aussi l'histoire avec un grand H. Vous dédiez même votre premier volet, Mère porteuse, aux enfants abandonnés.
Oui, écoutez, ça vient de ma vie. Dans les dernières années consacrées au département des affaires étrangères, comme ministre des affaires étrangères, j'ai beaucoup voyagé et j'ai emmagasiné les rencontres en marge des rencontres officielles, qui étaient souvent avec des gens en très grande difficulté, des enfants, des femmes, surtout des jeunes femmes avec des petits-enfants dans des régions en guerre, en dépression, très misérables, où il n'y a pas de droit ou pas de perspective. Et tout cela m'a beaucoup choqué au fond, et il fallait que je puisse l'écrire. Et c'était le premier livre que j'ai commencé à écrire dès le premier jour, en fait.
Et votre carrière en politique, comme député, comme conseiller fédéral, puis comme président, a-t-elle été, selon vous, utile pour le progrès social helvétique ? Quel regard vous portez là-dessus aujourd'hui ?
Ça, je ne le fais pas. Je crois que vraiment, un membre de gouvernement ne fait pas cette analyse de lui-même. C'est une équipe qui a travaillé dans le bien commun. En fait, vous savez, en Suisse, c'est le contraire de tous les autres pays. On ne fait pas l'élection d'un gouvernement avec un programme. On élit des gens qui ont des avis tout à fait différents, mais qui représentent les grands courants politiques, puis on les enferme dans une salle en leur disant « trouvez la meilleure solution pour tous
ouais. ».
Vous savez, on entre dans les séances du gouvernement en Suisse avec une idée, on en sort après avec l'idée du gouvernement.
Ouais. Lydie Salvert, la politique, ça vous effraie, je crois.
Il me semble que c'est un monde très dur et assez impitoyable.
C'est un monde qui peut être impitoyable, mais alors le monde que connaissent bien des gens sur cette planète est bien pire que le monde politique que l'on dit impitoyable.
Je parle de brutalité dans les rapports.
Mais d'accord, mais j'entends, vous savez, les rapports entre les gens dans le monde sont terrifiants, terrifiants. Ce qui est important, c'est pas tant le débat politique dur, c'est la culture politique qui est importante. Ce n'est pas important d'avoir le même avis. C'est important d'avoir la même culture pour les affronter, les avis, de manière à sortir les meilleures solutions. Et ça m'inquiète. Ça, c'est quelque chose qui vient du 20e siècle pour le 21e. Si on perd cette culture, alors ça deviendra impitoyable. Pour le moment, ça ne l'est pas.
Et il faut militer. C'est un acte politique. Tous vos personnages mènent des actes politiques, rien que par leur façon d'être et leur façon d'agir dans la société.
Tout est politique.
Oui, tout est politique. Merci beaucoup Didier Burkhalter, merci infiniment. Vous pouvez l'applaudir, Didier Burkhalter. Mère porteuse est paru aux éditions de L'Air, le second volet Terre minée également, et il y en aura un troisième. Merci à vous, merci Lydie Salvert. Une bonne présidence de ce Salon du Livre de Genève. À bientôt.
Merci. Bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le groupe calédonien Kaori.
À ciel ouvert, à ciel ouvert, à ciel ouvert, je veux vivre la vie, bord de la mer, sous le soleil de minuit. L'instant qui fuit, je veux chasser l'ennui, danser sous la pluie. On a scié les barreaux de la pensée unique, laissé fuir les oiseaux vers l'horizon magique et vivre la vie. À ciel ouvert, à ciel ouvert. Au dos de nos guitares, on écrit des poèmes, des mots que le hasard des alizés entraîne au cœur de la vie. À ciel ouvert, à ciel ouvert. Ciel ouvert, je veux vivre la vie, bord de la mer, sous le soleil de minuit. De l'instant qui fuit, je veux chasser l'ennui, danser sous la pluie. Le doute
briser les 20 miroirs de nos belles déroutes, fabriquer des victoires pour vivre la vie à ciel ouvert, à ciel ouvert. Je t'invite au présent à la fête qui bouge dans la coupe d'argent, trempe tes lèvres rouges et bois la vie à ciel ouvert, et bois la vie à ciel ouvert. Ciel ouvert, je veux vivre la vie, bord de la mer, sous le soleil de minuit. L'instant qui fuit, je veux chasser l'ennui, danser sous la pluie.
Kaori à ciel ouvert, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. N'oubliez pas la librairie francophone à la télévision. Première diffusion en Suisse et au Canada sur RTS2 lundi à 22h45 et sur ICI Art TV lundi à 21h30. À la réalisation, Christophe Imbert avec Florent Layani, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Techer en Suisse, René Mikils avec Valérie Lput en Belgique, Sylvie Julien avec Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre grand voyage francophone. Bonne semaine à tous et bon week-end.